Génération Restart. Génération Restart. Try again. Try again.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Try Again. Merci à Vincent et Clotilde pour la première heure de Génération Prestart. Nous, cette semaine, on va parler d'un jeu qui tient beaucoup à cœur, de celui-là que j'ai envie de présenter en premier ce soir, mon premier acolyte. Mon acolyte de toujours, celui avec qui j'ai fait des folies de mon corps et de tout ce que vous voulez.
Tu racontes.
J'ai des choses ce soir, c'est pas possible, je lance des rumeurs. Oui, je parle bien de Ellie. Bonsoir Ellie.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Lionel.
Salut Martin.
Lionel, le hardcore gamer de la soirée. Et bonsoir Mimi.
Bonsoir Mickey.
Tu resteras Mimi jusqu'à la fin de la saison.
Mais il n'y a pas de soucis, tant que c'est mignon comme ça.
Bah
va.
Voilà, Mimi, moi je trouve ça tout mignon, tout plein. Donc ce soir, le thème, du coup, je ne veux pas me faire le jeu, je crois. Hein. C'est Ghost and Goblins sur arcade.
Ouais.
Ouais, un peu d'arcade pour une fois.
Ça change un peu, hein. On touche à tout. Nous on est comme ça, on aime bien toucher à tout un peu partout. Sans sous-entendu. On va s'écouter sans trop tarder une musique, des musiques tirées en fait de la version Super Famicom du jeu. Donc en japonais ça s'appelle Shomakaimura, si mes souvenirs sont bons. Et donc on va d'abord écouter le son qui est sur la carte du monde, après celui du niveau 1. Et ça a été composé par Tomohiro Masada et Nobuhiko Iza. Donc toujours des gens du Japon, hein. On aime bien en fait les noms japonais.
Ouais, il va falloir qu'on s'y mette au japonais.
Mais jusqu'à la fin de la saison, hein, c'est un truc de dingue quand même.
On va s'entraîner un peu.
Depuis le début de la saison, on n'arrête pas. Donc voilà, on s'écoute ça avant de lancer les hostilités.
M57 Radio.
Try again.
Et c'est parti pour l'Insert Coins. Je crois que ce soir c'est préparé par Lionel qui va nous parler des jeux hardcore, c'est ça?
Ouais, voilà, des jeux à réputation hardcore en tout cas. Parce que, voilà, il y a des jeux qui ont peut-être des réputations surfaites, mais en tout cas, moi je peux vous parler des petits jeux dans ma vie de geek, en particulier aussi, que j'ai trouvé difficile. Et puis, bah, peut-être que vous aurez peut-être quelques anecdotes à
moi,
me proposer. Je sais très bien que vous allez rebondir, donc de toute façon, je me fais pas d'idée là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, donc on a tous dans notre histoire de joueurs rencontré des jeux qui nous ont marqué de par leur leur difficulté outrageuse, au point de jamais en voir la fin, mais presque, ou encore d'avoir envie de balancer le pad à l'autre bout de la pièce, ou même
persévérer
au travers de la télé,
au point de finir le jeu.
Ou persévérer au point de finir le jeu. Et alors d'avoir une satisfaction intense de battre l'ordinateur, n'est-ce pas, Martin ?
Allez.
Voilà.
J'assume.
Bon voilà, donc le jeu dont nous allons parler tout à l'heure, Guns and Goblins, tient pour beaucoup la palme du jeu le plus difficile de tous les temps. Et d'ailleurs, il y a un dossier sur un site que bon, j'apprécie moyennement, mais qui fait quand même des trucs sympas de temps en temps, jeuxvideo.com, qui a fait un dossier sur les jeux les plus difficiles de tous les temps. Et donc, pour eux, le jeu le plus difficile de tous les temps est Ghosts and Goblins.
Donc le jeu de la soirée.
Voilà, le jeu de notre soirée.
Qu'est-ce qu'on a choisi là ?
Donc d'où le choix du thème de Mon Insert Coins. Donc voilà, donc là c'est vrai, si on regarde un peu dans le détail, la principale cause de difficulté des jeux d'antan vient souvent de l'absence de sauvegarde, déjà dans un premier temps.
Ok.
Ça c'est déjà une des premières choses.
Ah ouais, effectivement.
Et souvent aussi, de ce fait de l'absence de sauvegarde, les jeux est plus ou moins contraint d'être relativement court en termes de durée réelle de temps de jeu pour le finir. Du coup, les programmeurs souvent, pour allonger un peu la durée de vie, pour pas qu'on dise j'ai fini le jeu là en une heure et demie, c'est bon, c'est plié, rangé et compagnie, et j'y retoucherai plus jamais. Ils mettaient une difficulté qui faisait qu'on était obligé de revenir plusieurs fois sur le jeu avant d'arriver à passer tous les niveaux, quoi.
C'était du par cœur en fait.
Voilà,
t'apprends
le niveau, t'apprends à le manier au pile poil près, tu fais des sauts au pixel près. Et puis des fois c'était juste aussi parce que la maniabilité était à chier et que du coup vous galériez à déplacer votre bonhomme dans le niveau et
Je veux des jeux hardcore, dis-moi lesquels.
Voilà. Donc pour ma part, mes premiers jeux entre guillemets hardcore que j'ai rencontrés, c'était sur la Game Boy, quoi. Parce que c'était ma première console vraiment propre. Et un des premiers jeux hardcore que j'ai rencontré pour moi, c'était Bart Simpson. Escape from Deadly Camp. Alors celui-là, c'était pas mon jeu, c'était celui de mon petit frère. Il arrivait pas non plus à y jouer. Je crois qu'il dépassait difficilement le premier niveau. Moi, j'arrivais à peu près au dernier niveau, mais impossible. Enfin, au bout de beaucoup d'entraînement, mais je crois que j'ai jamais réussi à le finir.
Je suis arrivé une fois dans les mines, mais j'ai pas fini celui-là.
Voilà, pareil. T'arrives dans la montagne, tout truc comme ça, à la fin du jeu.
C'est vraiment du parkour. Ouais.
Et fallait vraiment galérer. Il y avait aucun moyen. Enfin, il y avait pas de moyen en fait de vraiment tuer les adversaires.
Tu les paralysais,
tu fallait sauter par au-dessus en les évitant, quoi. Tu pouvais pas les tuire et au bout d'un moment ils revenaient à la normale. C'était vraiment très difficile. D'autres jeux sur la Game Boy qui m'ont marqué, Gremlins 2.
Si j'allais le dire.
Ah oui, la grande référence.
Qui s'est pas frotté à Gremlins 2 sur Game Boy, franchement.
Gremlins 2, mais alors il est.
4 niveaux.
Mais
je suis arrivé une fois dans ma vie au 4ème niveau, c'était il y a un an, je crois, j'ai repris le jeu juste pour voir comme ça. Et infernal. Parce que déjà, pour passer le boss du niveau 3, il faut que tu arrives à la fin du niveau 3 avec toute ta vie.
Ouais.
Parce que là, le dernier ennemi du niveau 3 te fait forcément perdre un cœur. Parce que quand tu peux pas l'éviter autrement, enfin, quand tu croises son chemin. Et après, durant le boss, il y a des coups que tu ne peux pas éviter. Mm. Donc il faut que tu arrives avec la fin du niveau 3 avec ton énergie à fond pour espérer back le boss de fin.
Ouais, d'accord.
Du niveau 3, c'est
en sachant que la difficulté des niveaux est déjà
hardcore.
Un autre jeu, alors où quand je parlais de la difficulté, de la maniabilité, des choses comme ça, Robocop sur Game Boy ou sur NES ou sur ce que vous voulez.
Ouais, mais en même temps, t'as vu comment il marche dans le film,
en fait.
Forcément.
C'est-à-dire que vous avez en fait des ennemis qui vous tirent dessus. Alors, le principal pouvoir de Robocop, bon sang, c'est qu'il se prend des tirs, il n'a pas mal, quoi. Il peut se prendre des rafales de mitraillettes, il bouge pas dans le film. Sauf que là, dans le jeu, vous prenez des rafales de mitraillettes, vous prenez 10 coups, vous êtes mort, quoi. Bon.
Non, tu prends une petite balle, tu perds un cinquième de ton
voilà.
Il a des coups de pied, il est sensible.
Et du coup, votre personnage, par contre, ce qu'ils ont super bien respecté, effectivement, comme Dinelli, c'est que il a à peu près la réactivité d'un robot de 300 kilos, quoi. Donc il se déplace super lentement. Il y a aucun moyen d'esquiver les tirs ennemis. Souvent les ennemis, en fait, quand vous avez dépassé un ennemi, des fois il peut encore vous tirer dessus en diagonale, mais vous pouvez plus le tirer dessus parce qu'il est derrière vous. Enfin, c'est que des trucs comme ça. C'est vraiment hardcore, atroce, du fait d'une maniabilité super rigide. Et il est vraiment très difficile parce qu'en fait votre personnage est très faible par rapport à ce qu'il devrait normalement être. C'est vraiment super hard, quoi.
Moi, j'ai fait les versions Super Nintendo et Amstrad CPC.
Tu dis les versions Super NES, t'as fini les deux, le 3 et le versus Terminator?
Non, juste le premier.
Moi, j'ai fini les deux et le 3, déjà, c'est une plaie, quoi.
Tu parlais de
Robocop 3 sur Super NES, c'est une catastrophe.
Ouais, c'est ça, c'est horrible.
Pour
en rajouter un petit sur la Game Boy, Boy Terminator 2. Alors je sais que ça fait beaucoup de 2. Terminator 2.
Je sais pas, je vois celui-là.
C'est juste atroce. Je crois que j'ai dû réussir à passer une fois le premier niveau, quoi.
Non, celui-là, je l'avais one life du premier coup.
Ouais. Écoute, tu nous posteras ton super play sur YouTube. Tu nous donneras l'adresse sur le forum.
Oulala.
Voilà. J'ai encore envie de faire une deuxième anecdote perso, si je peux.
Vas-y, vas-y.
Par rapport à un jeu hardcore, Super Monkey Ball 1.
Oui.
Alors à l'époque, on trichait avec l'action replay pour essayer de débloquer tous les niveaux du jeu et on a perdu, je sais pas, genre 600-700 vies. On est arrivé à ce moment-là au Master 3. Ça fait tout longtemps qu'on avait passé 60 stages en commençant là. Normalement, avec 3 vies, on avait bien fini. Et on a passé 200 vies à essayer de passer le niveau, on n'a pas réussi.
D'accord.
On allait sur internet voir ce que les gens en disaient. Il y a un des mecs sur le net, en fait, il disait que c'était le truc le plus hardcore qu'il ait jamais vu. Même dans les années 80, il n'a pas vu un niveau aussi difficile.
Mm-hmm.
Et bon, moi, après le niveau, je l'ai fait. Je veux dire, je suis expérimenté dans le keyboard, je me suis vraiment accroché. Mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à ce niveau-là, ils ont vraiment galéré, quoi.
Ouais, bon voilà. Bah, sinon, moi je citerais aussi Super Probotector sur Super Nintendo. Bon, je pense qu'avec un peu d'entraînement on y arrive, mais ouais, il est ouais, assez costaud, quoi.
Il est costaud.
Ikaruga.
Ça dépend comment on joue.
Bon, après,
mais quand même, ouais.
Ouais, il est
quand
dur,
même.
Il est dur.
F-Zero GX. Ah, version oh GameCube. Oh, atroce, quoi. Franchement, la difficulté est très très difficile. Mais quand même, premier du nom.
J'ai pas touché à cela, mais je pense que ouais.
Un bon petit challenge.
Ce qu'il a dans le ventre, ouais.
Battletoads.
Costaud.
Sur NES. Costaud, ouais, sur NES. Et Mario Bros. Beaucoup de gens citaient Mario Bros. The Lost Level.
Non, ça va.
Tu disais que c'était un des jeux Mario les plus difficiles, en tout cas, quoi.
Question d'habitude. En attendant, on va s'écouter la musique cette fois-ci de la version NES du premier niveau, puis ensuite le boss du monde 4 de la version Super Famicom. Donc on change un peu de plateforme. Et on se retrouve après.
57 Radio, première radio numérique de Lorraine. Première radio numérique de Lorraine.
De retour dans la deuxième partie de Génération Prestart Try Again pour que Ellie nous parle de Ghosts and Goblins.
Voilà, donc un de mes jeux préférés. Là, je vais vous parler de la version arcade parce que c'est la version qui était réputée la plus difficile et donc je me suis dit le challenge, je vais y mettre, ça va être rigolo. Et j'ai pas été déçu. Effectivement, le jeu est difficile, on y reviendra. Donc, le nom japonais, c'est Makaimura. Donc, c'est un jeu d'action plateforme, voilà, de Capcom qui est sorti en 85, donc sur bande d'arcade, comme je vous le disais tout à l'heure. Son concepteur, c'est Tokuro Fujiwara. Donc, c'est un gars qui vient à la base de chez Konami, passé chez Capcom.
Comment il s'est entraîné à dire les noms Jap? Oh, je... Ah, bravo!
Il... Non, depuis le début de la saison. Bien. Depuis le début de la saison, il n'arrête pas.
C'est bien, respect, respect.
Le programmeur en chef, c'est Toshiro Arima. Et les musiques, le chef de ceux qui ont fait les musiques, c'est Ayoko Mori. Voilà.
Ça dépend des versions, en vrai.
Voilà.
Enfin oui, sur la version arcade, c'est Ayoko Mori, ça je te l'accorde.
Donc dans cette version de Ghosts and Goblins, qui est-ce qu'on dirige comme personnage, à votre avis?
Arthur.
Voilà, le
roi Arthur.
Qui doit sauver sa belle. Et pourquoi il doit sauver sa belle? Ça, on le voit dans l'introduction. On les voit tous les deux dans un cimetière. Lui, il est en caleçon, elle est allongée plus ou moins sur lui.
Franchement romantique, on est dans un cimetière.
Je trouve ça très étonnant.
C'est un peu gothique.
Et c'est pour ça qu'il y a le diable qui vient les punir. Il vient kidnapper la belle et il bouscule le roi Arthur.
Est-ce que tu sais comment elle s'appelle, sa belle?
Non, je...
Non, il marque juste princesse.
Elle s'appelle Prin-Prin.
Prin-Prin.
Prin-Prin, la princesse.
Ah, Prin-Prin.
Ah, ouais, quand tu finis le jeu, donne-nous ses menstruations.
J'ai entendu ça dans une émission, je crois que c'était chez Marcus ou un truc comme ça.
Voilà.
Prin-Prin, la princesse. Et il a rajouté, heureusement, que Arthur, c'est pas Cheucheu le chevalier. Voilà.
T'imagines le nom des enfants, hein. Donc voilà, il y a le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers. Ben lui, dès qu'il se fait toucher, il se retrouve de nouveau avec son caleçon à cœur.
Bah, disons que dans ce jeu, il y a deux choses qui marquent quand on dit ce jeu. Premièrement, c'est la difficulté. Et deuxièmement, c'est le dépoilage du personnage avec son caleçon à cœur. C'est les deux choses qu'on... Bah, même quand on n'a pas joué, on le sait, quoi.
C'est peut-être là d'où vient l'expression dont on avait parlé sur GoldenEye, c'est-à-dire se retrouver à poil.
Ah, peut-être.
C'est comme Samus qui perd sa...
Enfin, moi, j'aimerais bien voir le caleçon de James Bond, hein. Il n'y a pas de problème, hein.
Ouais,
je préférerais que le caleçon d'Arthur, hein.
Oui, si tu veux. Oui.
Bah, James Bond, quand même, la classe.
Bah, Arthur paquet, aussi, hein. Arthur, il combat des démons, des dragons, je reviendrai tout à l'heure sur toute la liste d'ennemis, mais il a beaucoup de mérite, alors que James Bond, bon, c'est un monde civilisé, tout va bien, bon. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit peu un descriptif des contrôles. Donc, il y a deux boutons, facile, plus le stick. Il y a le bouton saut et le bouton tirer.
C'est compliqué comme gameplay, ça va?
Ouais, il y a même pas de double saut, tu vois.
Facile, en fait, comme jeu. Moi, je le One Life aussi, à ce rythme-là. Mais tirer et sauter, pff.
Tu peux tirer facile. Si t'appuies deux fois.
Tous les jours, toi.
Si tu appuies deux fois sur tirer, il envoie deux lances. Et il faut attendre qu'elles disparaissent de l'écran ou que les ennemis se les prennent pour pouvoir retirer.
Donc, il y a un
temps de.
De
il faut attendre avant de pouvoir retirer à nouveau, en fait.
Voilà.
Vie, quoi. Où tu es susceptible. Enfin, où tu es plus. Comment dirais-je? À l'affût des coups de tes ennemis, quoi.
Tu peux les
à la merci de tes ennemis.
S'il y a un zombie qui te fonce dessus, tu peux sauter au-dessus. C'est un très bon timing, c'est faisable.
D'accord.
J'ai déjà testé.
Donc, il faut alterner, taper les ennemis et savoir les éviter.
Non,
il
faut surtout les tuer. Si vraiment t'en loupes, après t'as plus le choix, tu sais de les éviter comme tu peux.
Parce qu'avec deux lances, quand même.
En fait, j'ai dit lance, mais tu peux faire un tir rapide. Alors, ça, c'est une méthode déjà un petit peu avancée. Tu tires plein de fois, tu bourrines le bouton tirer, tu fais bourrines le bouton avancer. Comme ça, tu le retires plus rapidement. Donc quand t'as des ennemis qui se prennent vite les coups, tu peux faire cette méthode. Tu t'approches un petit peu de l'ennemi parce que t'avances, mais il s'en prend plein la gueule. Mmh. Donc ça peut être totalement salvateur dans certains cas.
Ouais, j'imagine.
Alors c'est un jeu qui est composé de 6 stages. Je vous fais un petit peu le descriptif des stages. Tu commences dans le cimetière, donc là où tu t'es fait piquer ta belle. Il y a plein de tombes partout. Dans cette version arcade, si tu shootes les tombes, tu fais apparaître un magicien. Bon, si le magicien il t'envoie un sortilège, s'il touche, il te transforme en crapaud. Crapaud, il peut plus tirer, il peut juste sauter.
Donc en gros, tu peux pas tuer le boss, quoi. Tu peux avancer dans le niveau, après tu peux rien faire.
Si, parce qu'au bout de quelques secondes, tu reviens normal.
Ah d'accord.
Ouais, c'est comme dans tous les autres Ghosts and Ghosts and Goblins, tu te transformes en vieux,
en
bébé. Le bébé, c'est marrant quand il saute, il se casse la gueule. Ouais. Il peut plus bouger pendant quelques temps.
Il y a beaucoup d'humour quand même, j'ai l'impression.
Ah oui,
ça a l'air assez sympa à ce niveau-là, quoi.
Ah ouais, à part la difficulté, ils ont
l'humour.
La difficulté en elle-même est peut-être une blague des concepteurs, en fait. Hein.
Ah, mais à l'époque, ils étaient très, très portés sur la chose. Hein. Sur la difficulté dans les jeux, il y en avait quand même pas mal qui étaient relevés. Donc, on continue, on passe le monticule, et qu'est-ce qu'on voit? Un Red Arimer. Alors, les Red Arimer, c'est quoi? C'est une espèce de démon rouge. Ah, très vicieux, très vicieux. Si vous les butez pas très rapidement, ben, ils vont s'envoler, ils vont foncer un petit peu dans tous les sens. Donc quand on connaît vraiment bien le jeu par cœur, comme moi j'ai commencé à l'apprendre, il faut arriver assez proche de l'ennemi quand il est encore au sol, il attend, il bouge pas. Là, faut le bourriner avec la cadence de tir importante, de façon à l'éliminer des fois avant qu'il ait décollé. Parce qu'après qu'il ait décollé, c'est plus difficile. Il faut faire des sauts en arrière, se retourner, tirer, l'éviter. C'est pas du 100%, c'est vraiment des gros risques.
En gros, ce que tu me dis, c'est que c'est beaucoup basé sur le par cœur, ce jeu.
Si on veut le réussir en une vie, oui.
Et juste le finir.
Juste le finir, déjà, c'est bien d'apprendre certains trucs, parce que j'y reviendrai tout à l'heure dans le troisième stage avec plein de Red Rimmer, mais il faut connaître un peu. Donc, suite du premier stage, il y a quand même un checkpoint hein, au milieu, à la moitié du premier stage.
C'est gentil de leur part, quand même.
Ah ouais, c'est la moindre des choses, parce qu'après, il y a des trous à sauter, donc là, ça va dans la version arcade, c'est assez maniable, ça passe. Il y a des espèces de fantômes qui se foncent dessus avec un bouclier, tu retires dessus par devant, ça leur fait rien du tout, donc il faut juste que tu les esquives, et tu peux les avoir par derrière éventuellement, si tu veux. Mais bon, ils sont passés, alors c'est moins intéressant. Donc ils rigolent, là. C'est sérieux, ce que je dis.
Continue, on t'écoute.
Peut-être pour une fois, c'est pas toi qui fais les blagues pourries. Je pense que tu peux pas laisser les autres rigoler de ce que tu racontes.
Bien, on continue. Et on tombe sur quoi? On tombe sur des fantômes. Des fantômes qui te balancent. Des fantômes tout à fait classiques avec des...
Ouais, comme dans la vraie vie, quoi.
Comme ce qu'on voit. Alors, ça, ils sont particulièrement vicieux parce que quand ils sont en dessous ou au-dessus de toi, ils vont essayer de se rapprocher. Donc, ils changent d'étage, ils se rapprochent. Donc, si tu les tues pas, des fois, ils peuvent t'arriver dessus. C'est un petit peu embêtant.
Est-ce que si tu les regardes dans les yeux, ils sont timides et ils avancent plus?
Non,
c'est pas dans Mario.
C'est bien dur.
C'est des fantômes classiques.
Ils te foncent dessus.
Je tente, hein.
Bien,
on les tue en un coup, donc ça va encore.
Ah, des fantômes qu'on peut tuer.
Ouais.
Ah.
Enfin, c'est comme le roi Arthur, hein, il est armé. Hein.
De son slip, de son caleçon.
Et à la fin de ce stage, qu'on a passé ça, et les plantes, et les corbeaux, les plantes qui tirent dessus, les plantes carnivores avec des dents, tout ça, c'est une abomination. On arrive au cyclope. Le cyclope, en armure très baraque, là, oh là, il fait peur. Pareil, moi je conseille la méthode de tir rapide. Si on saute des fois, il essaie de nous imiter, il saute aussi. Ça peut être une bonne solution pour en venir à bout. S'il fonce dessus, il faut essayer de fuir et avoir une bonne distance, sinon il vous touche. En deux fois, vous êtes mort. Il tire des boules de feu. Bon, tout ça, il faut gérer. Encore, c'est faisable. Alors, arriver à finir le premier stage, c'est déjà un petit exploit en soi. Mais c'est pas fini. Après le premier stage, il y a le stage numéro
3.
Ah, quelqu'un dit 3, mais en fait, c'est 2.
Il n'y a pas
de warp zone dans le jeu.
Zut.
À l'époque, c'était beaucoup de warp zone dans les jeux, mais pas dans celui-là. Donc, stage 2. Alors là, ça se complique parce que les ennemis sont. Comment dire, beaucoup plus chiant.
Tu l'as dit. Hein.
Ouais, dans l'ensemble, de toute façon, c'est le principe du jeu. Les jeux des ennemis sont quand même pas simples de manière globale, quoi.
Ouais. Et donc on commence. Il y a des petits démons bleus. Il y a pas mal de plateformes. C'est une sorte de palais abandonné, un grand château abandonné. Donc là, on trace, on saute. Si on a la bonne trajectoire, on s'embête pas trop. On évite assez facilement. À la fin, on saute sur une passerelle qui se casse la figure, faut le savoir. On continue, on saute. On a fini déjà la première moitié du niveau. En principe, sans trop de problèmes, si on connaît. Et là, checkpoint.
T'es en train de nous dire, en fait, que le niveau 2, il est plus simple que le niveau 1.
Non, pas plus simple.
Jusqu'au milieu, après.
Mais la
checkpoint, il se visualise comment?
Il se visualise pas, mais quand on sait qu'on a passé cette phase, on avance un peu et c'est là, quoi.
D'accord.
Ils le disent pas.
Tu commences avec combien de vies?
Normalement, 3 vies.
3 vies, d'accord.
À l'ancienne.
Ouais.
Ouais, c'est pas énorme.
En 3 vies, non, c'est pas énorme. Enfin, dans la réalité, c'est pire, on doit tout one life et on n'a qu'une seule vie.
C'est vrai.
Ça, c'est fait.
De ce côté-là, mais vu comme ça, du coup, le jeu paraît tout de suite plus facile.
Ouais, c'est plus intéressant.
Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? On trouve un village fantôme. Oh, ben ça change pas beaucoup. Donc, des maisons où il n'y a personne. Et il y a d'autres sortes de petits démons qui sortent des fenêtres. Alors là, il faut leur tirer dessus, les shooter le plus vite possible parce que sinon ils foncent dessus, ils font des allers-retours pour revenir. Ça, c'est une calamité, cela.
C'est une calamité, les allers-retours.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Je crois que ça va être l'heure de s'écouter bientôt une petite musique. Ce coup-ci, enfin de la version arcade qui reprend donc les thèmes musicaux du troisième et du quatrième niveau. Donc cette fois-ci, c'est enfin composé par Ayako Mori, parce qu'on a quand même cité avant et on n'a pas encore une musique de lui jusqu'à présent. Donc on va s'écouter ça et après je redonnerai la parole à Ellie pour qu'il continue de nous parler avec magie de Ghost and Goblin.
It's the move.
On est de retour à l'antenne, toujours dans Génération Prestart, il ne faut pas l'oublier, une bonne émission de 2 heures avec une première heure un peu plus actualité, puis une heure un peu plus rétro. Ce soir dans le rétro on a décidé
Ghost and Goblins
sur arcade et Ellie avait déjà bien commencé à nous en parler et il a encore plein de choses à dire je crois.
Je m'étais arrêté au stage 2.
On va refaire dans l'ordre, tous les stages.
Le stage avant le 3, c'est ça, c'est ce qu'il nous disait pendant la musique.
Le 2, c'est celui entre le 1 et le 3.
Après le 1 et avant le 3.
Ah, c'est scientifiquement prouvé, hein, on peut pas dire le contraire.
Donc, on parle des Incas.
Après le checkpoint, donc on arrive encore dans une autre maison désaffectée. Il y a juste des espèces de monstres, on dirait des orques, des hommes, hommes porcs.
Des manbir pigs.
Alors ceux-là, ils ont une particularité, c'est qu'ils balancent une chaîne avec un boulet pointu au bout si tu les as en face de toi. Ou alors, quand ils sont au-dessus de toi, ils te le balancent au-dessus pour que ça te tombe dessus. Donc c'est, j'allais dire, encore des vicieux, mais ça ne changera pas beaucoup des autres ennemis. Donc ceux-là, ils ont une caractéristique spéciale, c'est qu'ils sont très résistants. Donc il faut vraiment les enchaîner avec plein de tirs. Je parlais après des différentes armes, il y en a qui sont plus ou moins efficaces. Donc là, je vous conseille la lance ou la dague, le truc de base, parce que la hache qui traverse les ennemis, le temps qu'elle disparaisse de l'écran et que vous ne pouvez pas tirer, lui il a fait son chemin pour arriver plus près de vous, donc c'est plus dangereux.
Ellie, un truc que tu n'as pas expliqué aux gens, c'est comment tu changes d'arme.
Alors en fait, on ne peut pas changer d'arme sauf quand on trouve l'item en question. Et si on le veut pas, on doit sauter au-dessus.
Est-ce qu'on peut en faire apparaître spontanément? C'est-à-dire que tu sais que là tu vas faire apparaître, je sais pas, une hache, une lance.
Non, ça c'était dans la version Super Nintendo, il y avait des coffres. Tu sautais un certain endroit, ça faisait apparaître le coffre, tu tirais dessus et tu pouvais prendre éventuellement ou pas l'arme.
Mais donc, dans la version arcade, c'est aléatoire.
Alors dans la version arcade, c'est les ennemis qui les amènent.
Ouais.
Ils ont un petit pot comme ça, tu tues l'ennemi, il y a le pot qui tombe, il se casse, et là tu vois soit un bonus, soit une arme.
D'accord, donc en fait, si tu veux avoir une bonne arme ou si tu as envie d'avoir une arme à un endroit, il faut que tu tues un maximum d'ennemis en espérant qu'il te rapporte l'arme que tu veux.
Surtout tuer l'ennemi qui a le pot.
Le pot, quoi, surtout tuer l'ennemi avec le pot.
S'il loupe, bah pas de pot.
C'est le cas de le dire.
Voilà. Donc ensuite, tu arrives quand t'as fini tout ça, et puis il y a plein de plateformes qui montent, qui descendent avec des corbeaux qui foncent dessus, et t'arrives au deuxième boss. Le deuxième boss, c'est un peu comme le premier, mais en version double. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cyclope, t'en as deux. Le problème, s'il y en a un qui saute, qui se met derrière toi, t'en as de chaque côté, là ça devient vraiment très pénible pour les battre. Faut les tuer le plus vite possible, sinon ils t'embêtent, ils foncent dessus, c'est fini. Donc encore, méthodiquement, en y allant doucement pour pas qu'ils passent de l'autre côté, il y a moyen d'en venir à bout. Alors, avant de parler du stage 3, je vous parle un petit peu des armes quand même. Donc il y a la lance de base, on peut en tirer deux et pas plus, jusqu'à qu'elle disparaisse de l'écran.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est pas mal, parce que ça tire loin et en ligne droite. Ensuite, il y a la deuxième arme, c'est la dague. Donc là aussi c'est pareil, sauf qu'elles vont beaucoup plus rapidement. Tu pourras aussi y retirer plus rapidement. Donc arme très intéressante, moi c'est ma préférée sur cette version. Ensuite il y a les torches. Donc c'est une torche, elle va pas très loin. Elle tombe sur le sol, elle fait une espèce de petit feu, donc qui peut tuer les ennemis.
Ça te laisse du répit quand les ennemis viennent vers toi, quoi.
Le problème, c'est que si t'en tires deux, après tu peux plus tirer le temps qu'elles brûlent, qu'elles arrêtent de brûler, et à ce moment tu peux retirer, donc faut pas se louper.
Ah ouais, d'accord.
Est-ce que le feu que tu tires peut t'endommager?
Non.
Donc tu peux marcher dessus et le traverser comme tu veux.
Il n'y a pas de souci, c'est du feu sacré, c'est du feu saint. Ça tue que les démons et autres mécréants.
Ok,
donc,
ok.
Les haches dont je parlais avant, donc ils passent à travers les ennemis, mais qui peuvent tuer toucher plusieurs ennemis à la fois. Et il y a l'arme finale qui est un bouclier dans ce jeu avec une croix dessus. Dans d'autres versions de ce jeu, c'est un crucifix. Donc c'est une arme à courte portée, mais elle te permet de, quand on tire dessus, de casser le projectile de ton adversaire. Dans la notice, ils écrivent, parce que moi je joue sur PlayStation, donc il y a une notice à cette version arcade, et ils disent ça permet de contrer les balles des ennemis. Bon, c'est pas vraiment des balles, hein, c'est un peu mal traduit. Et cette arme, c'est la seule qui peut tuer le boss de fin, éventuellement.
Et tu la récupères quand, cette arme?
Alors, comme les autres, il faut avoir de la chance. Il faut que t'aies un ennemi qui tu le tues, il te la porte. C'est à partir du stage 4, je crois, que tu peux l'avoir, pas avant.
Mais il y en a forcément un qui va te l'amener, puisqu'elle te permet de tuer...
Non, pas forcément. Tu peux arriver juste avant le boss de fin, ne pas avoir l'arme. À ce moment-là, tu bats les boss avant le boss de fin, et bah tu recommences le jeu.
Ah, oh, sympa.
Non, tu recommences pas le jeu, tu recommences le stage 5.
D'accord.
Donc c'est aléatoire.
Ouais. Ouais.
Ah bah si déjà t'es content, c'est un jeu hyper hard, t'arrives au boss et puis t'as pas ton arme parce que t'as pas écu, ça pourrait m'arriver ça.
Franchement, ça arrivé. Du jeu et à sa légende quelque part. Hein.
Bah et puis en plus c'était la même façon de faire sur arcade.
Ah oui, c'est la version.
Donc en plus les gens ils payaient pour réussir à jouer et tout et puis ils se retrouvent au boss, ils peuvent pas le battre.
Le temps est limité mais il y a des endroits où tu peux attendre qu'il y ait des ennemis qui loupent, tu peux les tuer jusqu'à quand ils t'apportent le truc. Il y a peu de chances que ça marche, mais tu peux un peu jouer là-dessus.
Il y a quand même moyen.
Normalement c'est quand même rare d'arriver tout à la fin sans avoir eu le crucifix.
D'accord.
Sans qu'il soit apparu une fois à l'écran en fait.
Peut-être une fois sur cinq ça arrive.
Bah après disons c'est le problème avec cette arme là, c'est que c'était difficile de battre certains ennemis.
Ah ouais, c'est une galère.
C'est une galère pour battre certains ennemis, mais t'es obligé de l'avoir pour le boss en fait. Ce qui est dur, c'est de le garder jusqu'à la fin et de tuer les ennemis avec sans perdre toutes tes vies, quoi. En fait.
Ah, c'est ça, tout à fait. J'en parlerai tout à l'heure parce que je vais recontinuer les stages dans l'ordre. On arrive au stage 3 et là, vraiment, les choses sérieuses commencent. Celui-là, il relève un petit peu le niveau de difficulté. Alors, on commence.
Il marche
supplémentaire. Alors d'abord, il y a des chauves-souris qui te descendent dessus, qui te foncent dessus. Bon, si t'avances, à la limite, ça peut ne pas être trop pénalisant. Ensuite, il y a les zombies de base, comme les premiers ennemis, donc qu'on connaît. Et ensuite, nouveauté, il y a des espèces de, de monticules. Et il y a un visage qui apparaît, il te balance une boule, voire deux. Donc ça peut être une boule haute, une boule basse, donc tu peux te baisser ou sauter dessus. Donc ils bougent pas, ils avancent pas, tu peux les abattre. Bon, ça va encore.
C'est souvent l'accumulation de tous ces ennemis en même temps, des fois, ou beaucoup plusieurs ennemis à l'écran qui est souvent difficile, en fait, dans ce jeu, quoi.
Ouais, d'autant plus que juste après, il y a les fantômes, là, les gros dégueulasses, ceux qui poncent dessus dans tous les sens. Ça peut être aussi pénible.
Et j'ai une question pour toi par rapport au nombre d'ennemis.
Dis-moi.
Est-ce que tu as un nombre d'ennemis maximum que tu peux avoir à l'écran simultanément ou pas?
Très probablement. Alors, moi, j'en ai déjà eu 2, 4, 5, 6. J'en ai déjà eu 7, je pense, en même temps.
Ouais,
c'est pas mal, ouais.
Ouais, non, c'est pas mal parce que je vois bien je trouve pas mes mots, c'est pas grave.
Bah, 7 ennemis avec des armes que tu peux a priori lancer que 2 par 2 le temps qu'elles surchargent, tu les récupères.
Si tu touches, ça va parce que tu peux retirer derrière assez rapidement.
Je vois la configuration du jeu en fait, ou comment ils peuvent être disposés. C'est vrai que 7, ça c'est déjà imposant.
Ouais, c'est énorme. Hein.
Ouais, c'est un maximum.
Surtout qu'ils font des fois des mouvements un peu spéciaux et vu qu'on peut tirer que devant ou derrière, les trucs qui te passent au-dessus de la tête et tout ça, ça devient difficile de se placer quand on a autant d'ennemis à dégommer en même temps.
Et après ça, il y a des Red Arimer, mais alors plein. Il y en a pas mal, des différents. Donc il faut bien connaître leur pattern pour arriver juste devant eux et les tuer avant qu'ils aient le temps de décoller. Sinon, il y a une grande chance qu'ils vous tuent. Ouais. Après quoi, il y a une certaine échelle, ouais, il y a plusieurs échelles dans cette grotte. Une échelle qui te permet un endroit, si tu fais un jump, de faire apparaître justement un de ces pots. Et ce pot, si tu t'es fait toucher une fois, t'as perdu ton armure, tu peux la récupérer grâce à ça. Faut connaître un petit peu.
Donc, Arthur se dépoile, mais il peut se repoiler.
Voilà. Il y a des chemins alternatifs de temps en temps.
Et les armures que tu trouves comme ça, il y en a beaucoup dans le jeu ou c'est très rare?
Il y en a pas énormément.
Ouais, donc t'as intérêt à bien les connaître parce que ça peut te sauver la vie, quoi.
À pas te faire toucher. Bon, si tu passes un stage et que t'es en caleçon, ils te remettent l'armure quand même.
Ah, c'est gentil.
Ils sont pas comme ça.
C'est gentil.
C'est sympa, quoi. Donc, en gros, t'as ton armurier qui t'attend à la fin du niveau et qui te rhabille, quoi.
Ouais, ouais, c'est tranquille. T'as le temps de rechercher ce qu'il faut, de te restuffer presque.
Donc, passe au vestiaire et puis c'est parti.
Voilà. Le boss de ce stage, c'est pas évident parce que c'est un dragon. Alors ce dragon, il va dans tous les sens, il tire des boules aussi. Il faut l'avoir pas mal de fois si tu...
Il crache du feu.
Ouais, faut se...
Et alors du coup, si t'es à poil, c'est pas mieux parce que ça te réchauffe du coup.
Non, ça te brûle. Donc j'en étais, ouais, il faut, tu peux viser que la tête, comme ça tu le tues un certain nombre de coups. Alors si tu touches le corps, ça va diminuer un peu sa longueur, parce que c'est un dragon tout en longueur, comme un serpent. Donc à ce moment-là, il y a moins de chances qu'il te touche aussi. Ses trajectoires sont aléatoires, donc c'est pas toujours évident de sauter au-dessus, de passer en dessous. Faut faire ça au maximum, quoi.
Okay.
Et on peut avoir un Red Arimer en même temps, si on scoltine celui qui était avant et qu'on l'a pas tué et qu'on a tracé.
D'accord, donc là on a la moitié du jeu, quoi.
Voilà, moitié du jeu.
Chose que peu de gens ont sûrement peut-être déjà fait dans leur vie.
C'est difficile de le passer le dragon. En fait, la particularité de l'arme, quand on la trouve, du crucifix, du bouclier dans cette version, c'est si on arrive à un dragon avec cette arme, il tire pas loin. Donc il faut tout le temps coller à l'ennemi, et là on prend beaucoup plus de risques et on se fait toucher très très souvent. C'est possible de le battre quand même, mais ça augmente considérablement le risque de se faire tuer. Et après le stage 3, il a le stage
5.
Four, ça vient de l'anglais, ça veut dire.
Oh, Martin, ce soir.
Je sais pas compter, hein, je sais pas pourquoi.
Alors, ce stage, ça commence avec de la plateforme. Il y a des espèces de plateformes qui font des va-et-vient, qui sont composées avec des yeux, c'est un peu bizarre. Alors, quand on connaît pas la première fois, si on monte sur la première, la seconde nous pousse dans le vide, bon, on perd une vie. Ensuite, on fait attention, on la prend pas tout de suite, on la prend que après, on les gravit les unes après les autres, et on arrive à passer d'une à l'autre, à avancer un petit peu. Ensuite, ça avance, on se plante pas trop, il n'y a pas d'ennemis, et on arrive déjà à la mi-stage. Bon, premier checkpoint de ce stage. Ensuite, il y a un Red Arimer. Bon, on fait la méthode habituelle, on tombe derrière lui, on l'allume le plus possible, ça devrait passer. Et ensuite, méthode très personnelle pour passer le stage qui s'appelle la rivière de lave, je crois. Le lac de lave. C'est d'avancer tout droit, sans arrêter. Parce qu'il y a donc un ponton avec de la lave en dessous et des petits démons bleus qui viennent dans tous les sens. On peut essayer de les fighter, mais moi je garde envie d'avancer jusqu'à tomber sur un Red Arimer qui bouge pas. Là je suis obligé quand même de m'arrêter pour le fighter. Mais normalement, si je le fais sans m'arrêter, je me fais pas toucher.
Ouais, mais tu fais ça parce que tu triches, non?
Non, c'est une technique.
C'est une technique, non, mais je veux dire, dis, tu refais le truc jusqu'à ce que t'aies le.
Non, en fait, j'avance sans lâcher, c'est tout.
D'accord.
Et si tu veux, il ignore les autres ennemis qui sont là, en disant ils s'en foutent, ils ne toucheront pas d'avance, et quand ils sont sur un Red Arimer, ils bourrinent et puis ensuite continuent son chemin.
Voilà, en évitant les geysers aussi, les geysers de lave.
Mais quel est l'intérêt en fait de tuer le Red Arimer? Enfin, tu tues juste le Red Arimer parce qu'il est dangereux.
C'est voilà, il te barre le passage simplement. Si t'avances, tu le touches, si tu le touches, il perd ton armure.
D'accord.
C'est un peu embêtant quand même.
Ellie, Lionel, il vient de parler d'intérêt. D'habitude, dans un jeu, il y a du temps, du score. Il en est quoi dans ce jeu-là?
Ah, il y a des temps limités. Effectivement, on peut faire, si on veut s'amuser, on peut faire le jeu rapidement possible, mais il faut se chronométrer soi-même. Il y a du scoring, c'est un jeu à l'ancienne, forcément il y a du score. Faut tuer un maximum d'ennemis, on peut leecher avec le temps si on veut. Moi je me suis pas tellement amusé à le faire personnellement.
Si tu perds un crédit, mais aussi un, comme dans plein de jeux Capcom, ton score retombe à zéro.
Ah, il retombe à zéro.
D'accord, c'est vraiment à l'ancienne. Alors un peu après, ils ont changé leur technique.
Voilà, oldies. Donc le boss de ce stage 4, c'est de nouveau un dragon. Donc pareil, configuration géographique légèrement différente, il y a une petite marche, ça peut être avantage pour sauter au-dessus quand on peut le croiser. Bon, admettons, on en vient à bout, et il y a le stage 5.
C'est là, hypothétique, hein, parce là, que déjà...
On touche au suprême. La difficulté est très haussée d'un cran. Alors là, on est carrément...
On entend Prin-Prin qui crie au loin. On se rapproche.
On arrive dans le palais ultime, qui est en fait le fond de la grotte. Hein. Il va falloir tout remonter. C'est comme une grande tour. Et là, nouveaux ennemis, c'est des squelettes. Alors on voit juste un
là,
crâne.
On peut dire qu'on est au fond du trou.
Au fond du gouffre. Il y a juste un crâne qui dépasse. Bon, t'allumes le crâne, tu le tues. Si tu l'allumes pas, dès que tu t'approches de lui, t'as un squelette qui sort de terre, qui saute dans tous les sens. Très chiant. Donc faut toujours le dégommer avant. Qui sort de terre. Parce que ça va, c'est pas trop difficile. Dans la mesure où il n'y a pas à la fois les fantômes, donc ceux qui font les trajectoires bizarres, aléatoires en zigzag, là, qui descendent, qui montent, qui tirent quand même dessus, ceux-là, et les petits démons bleus qui te balancent des boules aussi.
Donc là, c'est le feu d'artifice des ennemis.
Ah oui, alors là, c'est là qu'on peut facilement cumuler les 7 ennemis alors.
D'accord.
Moi, j'ai un petit tips.
Attention! Wow,
les tips magazine!
Prenez des notes là, prévoyez de prendre des notes.
Anecdote perso.
Allez, les deux en même temps.
Donc en fait, moi j'ai un shortcut. On peut un peu couper. Il y a une échelle.
Pour les anglophones.
Tout au début du truc, il y a une échelle. On monte à l'échelle. Il y a quelques ennemis. Alors moi je saute de façon à me faire toucher par les serres, mais le plus haut possible dans mon saut, comme ça, ça me propulse directement à l'étage supérieur.
Ah, tu m'avais montré.
Ça fait un petit peu gagner du temps. Le
c'est
problème,
un bug
non, non, pas du tout. Et le problème, c'est que bon, ça te fait perdre la moitié d'énergie, forcément, t'as plus
ton armure.
Alors ça, c'est vraiment très handicapant pour la suite, qui est plus difficile. Ou alors on peut faire le tour avec les échelles, mais il y a une bonne chance de se faire tout
C'est ce que j'allais dire. De toute façon, si tu fais le grand tour et le grand chemin, de toute façon, tu vas perdre ton armure. Donc tant qu'à faire, autant couper.
Non, moi je conseillerais pas. Au début, j'ai fait pour beaucoup m'entraîner, soit pour faire un très bon temps, mais ça, c'est pas trop mon truc. Soit pour vraiment m'entraîner un peu sur la suite du stage. Et pour one life et le jeu ou pour aller loin dans le jeu, je vous conseille pas cette méthode parce que c'est quand même trop pénalisant.
Attends, mais tu te rends compte, tu nous parles de one life et le jeu, quoi.
Non, je veux dire, pour aller le plus loin possible.
Ouais, parce que, déjà on arrive à finir le jeu avec tout ce que tu nous dis, ça déjà...
Moi, mon objectif, c'est quand même d'arriver à le one credit et à terme.
Nelly, tu sais que les jeux difficiles, en fait, parfois, ils sont faits pour être one life, parce que quand tu les one life, ils sont plus simples. C'est-à-dire que t'es stuffé, enfin, t'as de l'équipement, t'as des armes qui font que c'est plus le jeu est fait pour être plus simple. Un R-Type, par exemple, c'est un shoot'em up, c'est le cas.
Mais si tu le rejoues une deuxième fois avec tout l'équipement que t'as gagné. Mais
là, en fait, si tu perds une vie, tu perds tout, donc après, c'était plus en galère. Là,
oui,
là peut-être pas forcément, mais je veux dire, il y a des jeux difficiles qui sont faits pour être one life, en fait, ils sont plus simples que les one life que si tu perds des vies au fur et à mesure.
Mais ouais, parce que j'en ai.
Et donc toi, tu l'as pas one life encore,
Eddie? Non, pas encore, même pas one crédité. Non, mais j'y bosse.
C'est dans ses objectifs de bonne résolution 2011.
C'est franchement pas évident.
Ouais, j'imagine.
Faudrait qu'on approfondisse un petit peu le sujet et je vous le dirai si j'y arrive. Hein. Ensuite, on arrive dans les échelles. C'est très difficile les échelles parce que si on monte pas à fond, il reste coincé sur l'échelle et il est à merci des ennemis. Alors là, le problème, c'est avec ces échelles, c'est qu'il y a souvent des hommes porcs qui sont en haut des échelles. Faut attendre qu'ils s'éloignent pour monter,
c'est
les bourriner.
Ça comme ennemis, les hommes porcs.
Les hommes porcs, mais c'est pas le terme technique. Ils doivent avoir un autre nom. J'ai pas trouvé. Faut les bourriner le plus vite possible sans que l'homme porc du dessus balance un boulet sur la tête. Donc c'est assez, assez challenge. Et avec les autres ennemis. Pouf, quelques plateformes plus loin, on continue comme ça, on monte. Et à un moment, il n'y a plus d'ennemis. Dans un petit fantôme.
Tranquille.
Ouais, tranquille, facile, sans trop de difficultés, on continue. Et on arrive au boss du stage. Et le boss du stage, c'est un démon. Mais un démon angora, c'est-à-dire qu'il a le poil long et rouge. C'est celui qu'on voit dans l'introduction, c'est celui qui capture la princesse Prinprin.
Mais ça fait juste un peu rigoler le coup du démon angora. Ouais.
Faut pas être angoraphobe.
C'est quasi continu, donc le boss du stage 5.
Alors lui, il vaut mieux avoir une arme qui tire loin, parce que il fait un retour, il te fonce dessus, il tire dessus, c'est une abomination. Très difficile, si tu te fais toucher, tu recommences tout au début du stage 5, parce qu'il n'y a pas de checkpoint. Bon, admettons, bah quand même, parce que c'est dans l'histoire.
Ouais, parce qu'on est trop fort.
Parce qu'on est balèze, quoi.
Ouais, donc on arrive au sixième et dernier stage du jeu.
Waouh.
Enfin, je dis ça, mais en fait, il y a deux loops.
Ah merde.
Allez, spoiler, deux loops. Allez,
à l'ancienne. Faut que je place les informations parce qu'on aura plus beaucoup de temps là. Donc ce stage, encore un tout petit peu plus difficile. On commence, on bute quelques ennemis de base, on prend la grande échelle et là tout de suite il y a deux gros cyclopes. T'arrives en haut de l'échelle, t'en as un de chaque côté. Alors technique perso, moi j'arrive dans le stage, dégomme les ennemis, je fais quelques petits sauts, des allers-retours et ça fait que ils sont montés d'un cran les deux. Donc il y a moyen de se baisser, pas de se faire toucher. C'est une technique que j'ai vue sur internet. C'est pas moi qui l'ai appris celle-là. Moi, ma technique, c'est je me fais toucher et ça fait shortcut, je passe au-dessus direct. Comme ça, j'ai pas beaucoup d'énergie pour la suite, c'est une galère sans nom. Mais au moins, je suis passé, ce sera difficile. Donc, une fois qu'on les a passés, il y a un dragon, très difficile, des raid arrimeurs partout, des gros porcs, des hommes cochons. Et ensuite, on arrive tout en haut et la phase de fin, c'est quoi? C'est le démon rouge Angora, mais il y en a deux. En galère, et en plus il faut normalement l'arme dont je vous parlais avant, le crucifix, pour une fois qu'on les a battus, arriver à Astaroth, le boss de fin, qui est sensible donc que à cette arme.
Ça c'est incroyable qu'ils sont sensibles. Enfin, on puisse arriver au boss sans
c'est ça. Le roi Satan aussi. Ouais, ouais, c'est très difficile.
D'accord. Ok, donc on arrive à ce moment-là à Satan, le boss de fin, c'est ça?
Ouais, ouais, Astaroth. Bon, alors lui, il faut le viser dans la tête, il faut avoir un bon timing avec des sauts, et quand on le bat, on dit « Ah bah, il a réussi à se sauver !» Bon, du coup, il faut faire le deuxième loop, qui est très très difficile.
Du coup, on va s'écouter la musique du château d'Astaroth, qui est quand même la cinquième et la sixième musique, enfin, dans le cinquième, sixième stage du jeu, et c'est toujours tiré de la version arcade. Après ça, je donnerai la parole à Nelly.
Prin-prin.
N57 Radio.
Hits and Move.
Hits and
Génération Restart. Génération Restart.
Alors comme c'est un jeu bien dur, on a juste entendu encore le petit son du Game Over de la version arcade, qui est juste absolument énorme.
Mais jouer au jeu, vous l'entendrez souvent.
Dans le deuxième loop, les sons sont différents.
Bon. Ok, d'accord, information en plus. Nelly, je te passe la parole pour...
Oui.
Tu parles de... Vas-y, de quoi tu vas nous parler?
Alors, bah, vous vous doutez bien que vu la difficulté, je ne me suis pas trop... j'ai pas trop tâté du Ghosts and Goblins, mais j'ai fait ma bonne élève. Je suis quand même allée vous chercher des petits renseignements. Et donc, je vais vous parler un petit peu des suites et puis des petites anecdotes autour du jeu. Alors, évidemment, un jeu comme ça qui a marqué son époque par sa difficulté, mais aussi par le plaisir quand même qu'on avait y joué, n'a pas pu rester sans suite. La suite qu'il a eue, c'est Ghouls and Ghosts. Les goblins ont été remplacés par des ghouls. Et on affronte donc Lucifer, qui cette fois-ci, c'est toujours, il s'en prend toujours à notre pauvre Prin-Prin. Mais cette fois-ci, il lui a volé son âme, il s'est accaparé son âme. Et on va à la rescousse de son âme.
Oh le vilain.
Oh le vilain. Alors ce jeu, il a été porté sur vraiment plein de machines. Alors il y a eu la version Super Graphics, qui a priori est la meilleure. La version Mega Drive, qui s'en sort aussi très bien. Il y a eu le Commodore 16, 64, l'Amiga, l'Atari, l'Amstrad CPC, le Spectrum, et j'en passe.
Plein de machines, donc, on en a déjà parlé. Hein.
Voilà, donc il y avait vraiment, vraiment pas moyen de passer à côté, quoi. Et puis, par conséquent, il est d'une part plus beau au niveau graphique et il est enrichi aussi au niveau de son système de jeu, puisque cette fois-ci, notre brave Arthur peut tirer vers le haut et vers le bas. Son maniement va être aussi plus fluide. Et puis il va voir apparaître l'armure en or, qui a du pouvoir, puisque a priori, si j'ai bien tout compris, elle a une aura de force magique qui peut s'activer autour de lui.
Il peut concentrer son tir et après avoir un pouvoir spécial.
Voilà. Tout ça n'en fait malheureusement pas un jeu facile. Les suites Ghouls and Ghosts continuent à être un jeu d'une difficulté hard. Et évidemment, on retrouve plein de gens qui essayent de nouveau de le winelifer. Et en particulier le second loop, puisque là aussi, il va y avoir deux loops possibles sur ce jeu pour le finir correctement avec une bonne fin.
C'est un leitmotiv de la série, en fait.
Voilà, voilà. Voilà. Ensuite, on a eu la version Super Nintendo appelée Super Ghouls and Ghosts, qui n'est pas une adaptation, hein, c'est un jeu original de notre petit Arthur qui repart à l'aventure.
Donc cette fois, exclusivité voilà. Super Nintendo.
Voilà. Et au niveau du scénar, tout ça
Oh, c'est toujours un peu pareil, il doit délivrer sa belle, il doit faire deux loops, trouver les bons objets.
Combat Sardius, cette
fois-ci. Voilà, on reste dans les mêmes schémas du premier, c'est-à-dire Ghosts and Goblins.
Ouais, c'est comme un Mario, je veux dire, le scénar ne change pas beaucoup d'un à l'autre, mais bon,
c'est
pas ce qui fait le charme du jeu en général.
Anecdote marotte sur le jeu, quand tu termines le jeu, tu vois le nom des différents personnages, quand tu vois Prin-Prin, comme tu disais. Et ben tu vois ses mensurations.
Non. Et alors, elle est gaulée à la Lara Croft?
Elle est bien gaulée, je te le dis. Je posterai l'image sur le forum, mais quand tu finis le jeu, tu peux voir ça.
Ah, ça serait génial, ça.
Pour en revenir sur le boss de fin, moi j'ai fait des recherches, j'ai trouvé aussi qui s'appelait l'empereur Satan, Samael Samael. Et dans la littérature apocalyptique, Samael, c'est l'ange de la mort.
Oh.
Mmh. Pas mal.
Donc, belle recherche.
C'est la seconde culturelle.
Ouais, non, mais attends, de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis, la dernière version dans ces suites, c'est Ultimate Ghosts and Goblins, qui est sortie sur PSP. Alors là, évidemment, au niveau graphique, c'est autre chose, quoi. Hein, je veux dire, alors il y en a qui s'y retrouvent, il y en a qui adorent, et puis il y en a qui s'éloignent un peu de ce côté rétro et qui trouvent ça un petit peu dommage.
Ouais.
Voilà. Alors pour ceux qui aiment Ghosts and Goblins, il y a moyen d'y jouer encore aujourd'hui. On le retrouve dans la compile Capcom Génération volume 2 sur Play. On le retrouve aussi sur Saturn. Et puis je crois qu'il est à présent sur le WiiWare, il me semble.
Il est aussi sur Game Boy Advance.
Et sur Game Boy, ouais, tout à fait, sur Game Boy Advance.
Alors sur Game Boy Advance, en fait, c'est la version le Super Ghouls and Ghosts et Ghosts and Goblins.
Voilà.
C'est donc la version en fait de la Super Nintendo.
De la Super Nintendo. Et le numéro 2.
Et l'autre version que tu as dit
non, pas Ghost and Goblin, Ghost and Ghost. Et Super Ghost and Ghost.
Ça veut dire que c'est la version
Mega Drive ou Arcade et la version Super Nintendo.
D'accord.
Voilà.
Et puis pour les fans du genre, on peut même y jouer maintenant sur son iPhone. Alors je sais pas quelle version c'est, si c'est modifié ou pas, mais il y a moyen de retrouver Arthur sur son iPhone. Voilà. Et puis on pouvait aussi jouer à Ghosts and Ghost sur Street Fighter 2 Champion Edition sur Sega Play TV. Ça c'était un petit clin d'œil pour Ellie qui aime bien les jeux TV. vie, machin.
Au purée, me le faut.
Voilà. Et
Street Fighter avec
Ghost Live TV.
Et Ghost and Goblins aussi sur une mini console Play TV aussi, on peut le retrouver. Donc là, c'était le petit clin d'œil à Ellie. Voilà. Oui. Donc il n'y a pas moyen d'oublier ce jeu. Il est encore parmi nous. Tellement et à tel point que, enfin, Arthur a tellement marqué les esprits qu'il y a plein de petits jeux qui lui font allusion. Évidemment, les jeux qui sont tirés du même éditeur, hein, on va dire, ça c'est sûr. Mais donc voilà, on peut retrouver plein d'anecdotes, en particulier par exemple dans Dead Rising, où on peut débloquer les sous-vêtements d'Arthur, le petit caleçon à cœur est débloquable, donc c'est assez marrant, un petit clin d'œil sympa. On le retrouve aussi dans Zack et Wiki, puisque donc sur Wii. Puisque dans Zack et Wiki, il y a un mini-jeu, c'est un squelette musicien qui s'appelle Bonelitch, et il vous propose de faire un petit jeu musical où il faut secouer la manette au bon moment où il nous l'indique. Et une des musiques, c'est la première musique qu'on a entendue aujourd'hui dans cette émission, c'est la musique du stage 1. Donc de nouveau clin d'œil, et clin d'œil récent puisque c'est sur Wii. Arthur apparaît aussi comme personnage jouable dans Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, et puis plein de personnages, Arthur, Astaroth et d'autres ennemis apparaissent dans Namco X Capcom, et il est aussi jouable dans SNK vs Capcom, je ne sais plus exactement le sous-titre de ce jeu, mais donc vraiment plein de jeu où on peut le retrouver, où on peut trouver des choses qui nous rappellent Ghosts and Goblins.
Et le roi Arthur, on le retrouve dans King Arthur's World sur Super Nintendo, mais ça n'a rien à voir.
Mais non, c'est un jeu de Jellicoe dont tu parles.
Voilà.
C'est pas un jeu Capcom.
C'est pour ça que ça n'a rien à voir.
La musique du premier niveau de Ghosts and Goblins peut aussi être jouée, a priori, alors j'ai pas essayé, vous essayerez chez vous, dans le niveau Shadman de Mega Man 7 sur Super. Il suffit pour cela d'appuyer sur B en même temps que l'on sélectionne le niveau.
Ouais, j'avais déjà vu ça.
Voilà. Et puis, pour finir avec les petites anecdotes, j'ai trouvé une vidéo vraiment marrante des petits gars qui se nomment les Mega 64 et qui ont fait une vidéo très drôle où ils se sont cosplayés, un en ennemi et un en Arthur. Ils sont devant sur un parking de supermarché, j'ai devant des gens hallucinés, et ils mettent un combat, et quand l'ennemi touche Arthur, évidemment, il lui arrache le vêtement, et Arthur se retrouve en caleçon. Le mec qui joue Arthur se retrouve en caleçon devant des inconnus qui se demandent ce qui se passe.
Ouais,
donc c'est vraiment hilarant, quoi. Hilarant.
Bien marrant, quoi.
Voilà. Donc ça, c'était pour mon petit travail personnel. Maintenant, on va vous faire un petit peu tout ça, puisqu'on a eu des petites questions d'auditeurs. Alors, j'ai essayé de trouver des réponses, mais vous allez me compléter. Mmh. Alors, on nous demandait, Ghosts and Goblins avait-il cette réputation de jeu ultra difficile dans les années 80, alors que de nombreux jeux étaient difficiles? Oui. Je veux dire, il n'y a pas photo.
Oui.
On est d'accord. Ellie nous l'a expliqué, la multitude d'ennemis, les armes a priori qui se rechargeaient quand même, qu'on pouvait qu'envoyer par deux, les passages plus ou moins difficiles parce que ça bougeait, ou les fossés à passer, c'était un jeu déjà difficile à l'époque.
Ouais.
Et il s'est fait cette réputation dès le début.
Alors j'ai quelque chose à rajouter. Pour moi, c'est un jeu très difficile, hardcore même, mais c'est peut-être quand même pas le plus difficile de tous les jeux vidéo. J'ai trouvé la version Amstrad un petit peu plus corsée, même s'il n'y a que 3 stages, on peut les louper à l'infini. Et un autre jeu sur CPC, toujours, c'est Hobgoblin. Ça copie le principe, mais il est encore bien plus corsé, croyez-moi.
Par rapport à cette réputation, moi je pense que c'est ce qui a fait le succès du jeu, même dans les années 80, et qu'il a connu autant de suites, de portages, que ça a réussi à faire marcher la série, quoi. Les gens, ils savaient que c'était difficile, mais quelque part, ils en voulaient à ce moment-là.
Exactement, c'était un véritable challenge, quoi.
Voilà. Sur borne d'arcade, ça doit coûter cher, quand même.
Tout à fait. C'est clair. Deuxième question, quelles sont les influences du monde dans lequel évolue Arthur? Là, il n'y a pas photo, hein. C'est dit dans le titre, Ghost, le côté horrifique, fantomatique, etc. Et Goblins, le côté fantastique où on va vraiment retrouver des monstres du fantastique, des films fantastiques, des histoires fantastiques. Donc les gobelins, les ghouls, les, comment t'as appelé, les gros dragons là tout à l'heure qui nous attaquent. Donc c'est vraiment ces deux mélanges. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais le mélange fantomatique et le mélange fantastique que l'on retrouve dans le jeu et que l'on retrouve dans les différents différents niveaux que va parcourir Arthur. Le cimetière pour le côté fantôme, le château plein de monstres pour le côté fantastique. Donc voilà, c'est dit dans le titre, c'est annoncé dans le titre.
C'est même aller plus loin que ça, parce que Capcom a même fait une série spéciale de jeux pour certains ennemis. Je pense forcément à Red Arimer et en fait la série Gargoyle Quest, qui a connu le premier épisode sur Game Boy avec Red Arimer où il était en vert, après Gargoyle Quest 2 sur NES où il était en rouge, et après Demon's Crest qu'on a connu en Super Europe sur Super Nintendo. Ces trois jeux-là sont tirés de cet univers où il reprend un ennemi comme personnage principal jouable. C'est vraiment des excellents jeux, ils ont tous marché. Je veux dire, pourquoi ils n'ont pas continué la série, quoi.
Était vraiment difficile aussi, mais vraiment un très bon jeu également.
Tous sont très difficiles, mais sont excellents.
Bon. Et puis évidemment, Arthur fait partie. Enfin, pour nous, c'est un nom culte du le roi de la table ronde, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Moi, je tiens à préciser aussi que dans Maximo sur PlayStation 2, le héros peut se retrouver en caleçon, et c'est un clin d'œil à ce jeu, même si c'est pas une suite directe. De même dans Medville sur PlayStation 1 et 2. Je veux dire, Medville 1 et 2, ça ressemble beaucoup aussi au genre.
D'accord.
Voilà. Voilà, pour les petits clins d'œil.
Le temps pour moi de vous annoncer que vous trouverez tout ça et plein d'autres choses encore sur notre magnifique forum www.forumtryagain.com où il y aura plein de choses qui seront dites. Notre podcast en exclusivité là-bas et nulle part ailleurs. Que la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de Turtles in Time. Voilà, des Tortues Ninja la semaine prochaine, en front la gamelle.
On va manger la pizza.
Ça va tout poser du slip au niveau des musiques. Moi, je vous l'annonce.
Moi, sans un choix.
Et la dernière musique qu'on va s'écouter, ça va être la musique du dernier niveau de la version suivie avec un petit bonus, qui a été composée par Tomohiro Masuda et Nobuhiko Iza, parce que ce soir j'ai pas dit beaucoup de compositeurs. Et sinon d'ici, rendez-vous la semaine prochaine, je vous reviens à tous, bye bye.
Salut tout le monde.
Ciao ciao.
Salut.
M57 Radio.
Génération Restart.
Génération Restart.
Game over.